Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, on va faire appel aux sciences sociales en s'intéressant à l'évolution des mouvements de mobilisation pour le climat.
Le message est clair, devant la tour de la Société Générale dans le quartier de la Défense, ces manifestants ne comptent laisser entrer personne. Attachés les uns aux autres, des centaines de militants bloquent l'accès au siège de la banque, une opération de désobéissance civile avec pour but de dénoncer ce qu'ils appellent la République des pollueurs.
Gérald Darmanin annonce la dissolution des soulèvements de la Terre, rendant ce groupement responsable des violences perpétrées lors de manifestations contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin ou alors la mégabassine de Sainte-Soline, c'était fin mars.
On a marché, on a signé des pétitions, 2 millions de personnes ont signé l'affaire du siècle, on n'est pas entendu. En fait, là, il faut qu'on passe à l'échelle supérieure, c'est-à-dire enclencher un nouveau rapport de force, et la désobéissance civile, c'est quelque chose pour nous qui est important parce qu'on est prêt à prendre des risques juridiques.
Aujourd'hui, on s'intéresse donc à ces militantes et ces militants qui s'engagent dans de nouvelles formes de mobilisation pour le climat. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Sylvestre Huette, journaliste scientifique, et Gilles Rammstein, paléoclimatologue. Bonjour Sylvestre et Gilles.
Bonjour.
Et nous aurons la chance de recevoir Sylvie Olitreau en deuxième partie d'épisode, qui est spécialiste de l'analyse de ces mobilisations pour le climat et de leur évolution au cours du temps. Alors Sylvestre et Gilles, je voudrais quand même peut-être d'abord avoir votre ressenti à vous en guise d'introduction. Hein. En particulier, toi Sylvestre, ça fait des décennies que tu suis ces sujets, que tu documentes les rapports du GIEC et leurs messages principaux à chaque publication. Ces messages qui sont repris. Marche pour le climat après marche pour le climat, et pourtant, on l'entendait en introduction, on a beau marcher, on n'a pas l'impression qu'on soit au niveau d'ambition et de changement politique nécessaire pour atteindre les objectifs qui sont fixés COP après COP. Alors, comment est-ce que tu expliques ce paradoxe ?
Il y a une raison vraiment fondamentale, c'est que ces mobilisations citoyennes se heurtent à la nature profonde de l'action à conduire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc la menace climatique. Un slogan qui est souvent vu et entendu dans les manifestations le souligne. C'est le slogan « Changeons le système, pas le climat ». C'est un slogan profondément juste. Comme le montre le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, ce rapport souligne que certaines des caractéristiques fondamentales de nos sociétés, comme l'écart énorme de patrimoine et revenu entre population et individus ou le rôle de la publicité dans l'économie, sont en totale contradiction avec des politiques climatiques efficaces. Il y a donc du vrai dans ce slogan. Le problème, c'est que ce n'est qu'un slogan. Or, pour mettre en cause ces caractéristiques, il faut des changements socio-économiques et culturels, et ces changements ne peuvent pas être exprimés sous la forme de slogans de manifestation, mais seulement sous la forme de programmes d'action politique de longue durée, touchant aux structures de la société, des structures tant matérielles que socio-économiques et même culturelles. Et organiser une mobilisation citoyenne sur un tel programme, c'est considérablement plus difficile que de réussir une manifestation, même répétitive, sur un slogan. Et ça réclame en fait une capacité à agir sur le long terme, la prise de pouvoir politique à différents niveaux d'organisation de la société, la capacité à mettre en cause les structures socio-économiques et les pensées dominantes de nos sociétés. Et on voit bien que la plupart du temps, les mobilisations citoyennes qui, dans le passé, ont obtenu des succès, eh bien, ces succès, ils étaient toujours partiels, portant sur une petite partie des problèmes posés dans une société donnée, mais que c'est hors de dimension par rapport à l'action politique qu'il faut conduire pour arriver aux objectifs climatiques.
Et bien justement, quelles sont ces nouvelles formes de mobilisation ? On va y revenir avec notre invitée Sylvie Olitreau. Mais Gilles, je me tourne vers toi parce que, bon, évidemment, t'es paléoclimatologue, pas sociologue, mais enfin, tu passes du temps à former des étudiants, à échanger avec des publics variés. Est-ce que toi, tu as senti cette évolution récente dans les réactions que tu as par rapport aux conférences que tu peux faire ou dans les discussions que tu as avec différents publics ?
Oui, ben, je pense que Sylvestre a remarquablement expliqué la complexité du problème. Donc moi, je vais parler essentiellement de mon expérience de chercheur. Et comme je fais quand même pas mal de conférences dans différents milieux, sociologiquement, ça se traduit quand même très différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous intervenez dans des collèges, dans des lycées, qui sont des lycées plutôt privilégiés, vous avez le sentiment d'être écouté, mais d'un autre côté, vous avez aussi le sentiment que le soir, à table, ces collégiens, ces lycéens, ils peuvent avoir des discussions avec leurs parents, et ils peuvent avoir des repères. Mais il y a tout un pan de la société où ces repères, ils les ont pas le soir à table, ils risquent pas de les avoir. Mais L'aspect très positif de ça, c'est que ces jeunes-là, ils sont tout à fait conscients qu'il va y avoir un problème et ils vous écoutent avec beaucoup d'attention. Et vous voyez bien que dans leurs yeux, que, eh ben, il y a comme un petit déclic et ce déclic, il est hyper important. Si, comme le dit Sylvestre, il va falloir quand même faire des changements sur le très long terme, ce qui implique une compréhension du système. Alors, un deuxième point, je pense, qui est important, sociologiquement, je crois, c'est ce caractère d'urgence et ce fait que la réaction des jeunes, elle se fait un peu en désespoir, mais ce désespoir est lié, d'une certaine façon, de l'inaction. C'est-à-dire que, pour la première fois, l'humanité est confrontée à un problème vraiment grave et vraiment complexe, et en plus, on n'a pas beaucoup de temps pour le réaliser. Et donc, il y a cette accélération, elle conduit, d'une certaine façon, à une radicalisation, et ce qui rend, sans doute, à l'échelle mondiale, le problème encore plus complexe, c'est que finalement, les pays industrialisés ou qui se sont industrialisés, comme la Chine et l'Inde sont en train de le faire, sur le fossile, on produit ce dérèglement. Ce dérèglement, il est global, mais évidemment, il impactera d'autant plus que vous êtes vulnérable. Et cette complète inhomogénéité, en réalité, de certains pays face au changement climatique, eh ben, ça pose des problèmes qui sont encore plus compliqués. Donc, je pense qu'on a besoin justement de sociologues pour comprendre comment faire pénétrer ce discours dans les têtes et aussi, à long terme, être capable d'établir ce que Sylvestre a expliqué un peu, des stratégies de très long terme pour être capable de faire face à quelque chose qui est complètement inédit.
Eh bien justement, on va s'interroger sur les formes de mobilisation qui se mettent en place pour répondre à cette complexité des enjeux dont vous venez de nous parler. Et tu as raison d'y ajouter la dimension internationale, puisque la justice climatique est vraiment au cœur aussi des messages que l'on voit dans ces mobilisations. Mais pour cela, je me tourne dès à présent vers notre invité. Sylvie Olitreau, bonjour, bienvenue dans le Climat en question.
Bonjour.
Vous êtes politiste, directrice de recherche au CNRS et à l'École des hautes études en santé publique, EHESP, et vous avez travaillé et publié de nombreux articles sur les formes de militantisme écologiste à différentes échelles, en croisant les trajectoires individuelles et collectives qui vont conduire des individus à faire le choix de se mobiliser. Et dans nos épisodes, en général, on essaye plutôt de comprendre l'évolution du climat, les risques à venir et aussi les solutions, hein, ce qu'il faudrait faire face au dérèglement climatique. Mais aujourd'hui, on va donc parler d'un nouvel angle, puisque je vais vous interroger sur la façon dont les populations se mobilisent pour faire face à ces menaces et agir. Alors, je mentionne également que vous venez de publier une version revue et augmentée d'un ouvrage qui s'appelle « La désobéissance civile », qui vient donc de sortir aux presses de Sciences Po avec votre collègue Graham Heiss, et on va le partager sur les réseaux sociaux. Mais je reviens à ma première question. Donc, au cours des dernières années, on a observé des changements dans les formes de mobilisation pour le climat et dans les engagements écologistes plus généralement. Et il semble que les jeunes, peut-être d'ailleurs pas que les jeunes, vous nous le direz, ne croient plus aux grandes marches pour le climat et soient fatigués de répéter les mêmes choses COP après COP sans voir de réels changements. Et donc, ils s'engagent dans d'autres formes de mobilisation, les grèves du vendredi pour les plus jeunes, des actions pour bloquer les autoroutes en se collant au sol, des interventions lors de tournois sportifs ou encore des tableaux qui sont recouverts de soupe notamment. Alors, comment est-ce que vous décririez l'évolution des formes de mobilisation au cours des dernières années? Est-ce qu'il y a vraiment un changement et est-ce qu'on a raison de parler de formes d'action plus radicales?
Vous avez en partie raison, c'est-à-dire qu'il y a eu des grandes mobilisations qui étaient souvent orchestrées d'un point de vue aussi international, transnational, avec tout le maillage, on va dire, des ONG et des réseaux transnationaux. Et au fur et à mesure, alors, y compris si ce militantisme reste international et transnational, parce que la question du climat est fortement internationalisée, il n'empêche que, voilà, il y a des groupes, notamment, alors ça a commencé aussi en Royaume-Uni avec Extinction Rebellion, qui se sont organisés vraiment sur l'idée de la désobéissance civile et sur l'idée aussi un mouvement de masse, je dirais, de l'alerte, et aussi d'en faire un enjeu, je dirais, plus politisé d'une certaine manière, c'est-à-dire de pas rester juste dans le lobbying pro-environnement ou écologiste, mais de faire prendre conscience, je dirais, à l'opinion publique que l'urgence est bien présente et qu'il s'agit d'agir. Et agir, ça veut dire transformer les modes de consommation, les modes de production, interpeller aussi les États, les groupes d'intérêt sur leurs actions, voire même sur leur inaction. Alors, dans un sens, je dirais la démultiplication des, comme vous avez dit, des actions, je dirais directes, non violentes, je tiens quand même à le souligner, on fait penser que c'était un mode d'opératoire nouveau. Alors, c'est pas tout à fait nouveau au sens où ça s'est déjà produit par le passé, y compris par Greenpeace, y compris par d'autres ONG. En revanche, ce qui a peut-être été, oui, qui a été étonnant, c'est que ça s'est démultiplié en un temps assez record, c'est-à-dire ramassé autour des années 2022-2023. Ça a été pris en charge effectivement beaucoup par des jeunes qui ont incarné ces mobilisations, qui ont quand même beaucoup joué sur le fait que c'était une urgence, beaucoup joué sur le fait que, en gros, les générations futures, bah, elles sont là et elles sont présentes et c'est maintenant que ça se produit, la question climatique. Et donc, l'incarnation est beaucoup plus forte. Alors que par le passé, on parlait effectivement du droit des générations futures, on parlait, en gros, que ça n'allait pas bien, on avait des belles courbes pour expliquer que, voilà, il y avait des enjeux, alors climatiques, sur la biodiversité et sur des tas d'enjeux internationaux. Mais là, clairement, c'est un point de rupture où c'est l'urgence, c'est incarné. Ça se veut aussi, alors on peut peut-être y revenir tout à l'heure, un peu désespéré, c'est-à-dire qu'on voit que voilà, le mode opératoire est un peu désespéré, c'est-à-dire qu'on crée la colère, on montre la colère, on montre aussi son anxiété, on montre aussi que le système est à bout de souffle et on interroge, comme je l'ai dit, quand même ce qui est assez intéressant, à la fois le système, je dirais, politique et économique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un questionnement aussi derrière sur les modes de production, les modes de consommation, et pas simplement sur des projections de politique publique, mais aussi sur une transformation réelle des pratiques et des politiques dès maintenant, enfin au plus vite.
On le rappelait en introduction, et vous nous le rappeliez à l'instant, une partie de ces actions se réclament de la désobéissance civile, et s'inscrivent dans une histoire qui est longue, qui est marquée notamment par les actions et la pensée de Martin Luther King aux États-Unis. Mais si on se souvient généralement de son grand discours « I have a dream » à Washington, on oublie parfois la stratégie et l'ensemble des actions qui ont au cours du temps permis des victoires pour les droits civiques aux États-Unis. Alors est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire avec le mouvement climat aujourd'hui et surtout des leçons qu'on peut tirer qui peuvent aider peut-être à l'efficacité des actions dont on parlait?
Ce qui est vrai, c'est que souvent, peut-être parce que Martin Luther King est devenu une figure emblématique des droits civiques et reconnu aussi aux États-Unis maintenant comme voilà un porteur de progrès assez unanimement. Enfin, c'est assez difficile maintenant, je dirais, d'attaquer Martin Luther King. Mais on oublie fortement d'abord que Martin Luther King lui-même, au moment, je dirais, de ses activités, il a été très souvent en prison, enfin emprisonné, qu'il y avait une forme de violence aussi, alors exercée sur les groupes, mais eux-mêmes, alors n'entrait pas en violence car c'était l'idée de la non-violence, mais l'idée de la non-violence ne veut pas dire du tout renoncer à la radicalité, renoncer aux illégalismes, c'est-à-dire entrer, je dirais, de plein fouet contre une loi, surtout si cette loi semble injuste, inique, méconnaissant la morale, comme l'aurait dit David Soreau, hein, des penseurs de la désobéissance civile. Et je pensais aussi, et d'ailleurs elles en font référence parce que les jeunes militantes actuellement qui sont en écologie renvoient souvent leur activisme à celui des suffragettes. Les suffragettes avaient elles aussi été dans la désobéissance civile et dans des illégalismes, et elles se revendiquaient aussi de certaines formes de violence, hein. Alors des violences pour alerter l'opinion publique, pour montrer aussi combien il était injuste que voilà, bon, elles soient exclues à l'époque du droit de vote. Il faut se souvenir que dans la désobéissance civile, la question aussi de la violence non-violence est perpétuelle. Le curseur est compliqué parce que tout dépend aussi du niveau de répression de l'État et que selon les contextes, c'est vrai que la non-violence, ça demande quand même, à la fois un courage personnel et aussi une sorte d'abnégation des organisations, c'est-à-dire que les organisations doivent organiser cette non-violence, accompagner les militants au procès, comme l'ont fait la plupart, y compris dans l'histoire, ces organisations soutenant la désobéissance civile, mais ça a un coût. Un coup, on va dire, de santé mentale, un coup du militantisme au sens organisationnel, c'est-à-dire de l'argent, des moyens. Et il y a certaines organisations ou certains surtout membres de ces organisations-là qui peuvent ensuite, j'allais pas dire basculer dans la violence, mais penser que ce n'est pas assez efficace et aller sur des modes d'action, encore plus radicaux et allant, par exemple, sur les questions de sabotage. Il faut savoir aussi que pour revenir aux suffragettes, elles-mêmes allaient sur, alors c'était toujours contre des biens enfin le contre des biens, contre des édifices, mais il y a eu aussi voilà des actes qu'on pourrait renvoyer au sabotage actuellement. Donc c'est quand même la ligne de crête et c'est une ligne de crête qui a traversé l'histoire même de la désobéissance civile. Souvent on arrive à la fin, c'est-à-dire quand le combat est terminé, donc on retient juste le côté non violent, mais c'est très clair. Un jeu à deux, c'est-à-dire entre les militants, les organisations et les États. Les États derrière, c'est la police, hein, qui n'est que là pour exécuter ce que veut bien, je dirais, donner comme cap les États. Et c'est pas régulé de cette manière-là. C'est-à-dire que actuellement, on est au milieu du gué pour les écologistes. Et selon les contextes et selon le niveau de répression, on sait bien que voilà, il y a des questionnements sur leurs modalités d'action, sur leur stratégie, voire même sur la désobéissance civile elle-même, puisque Extinction Rebellion, à un moment, avait statué de voilà, je dirais d'arrêter cette forme d'action parce qu'ils sentaient tout simplement une forme de burn-out militant qui pouvait poindre à l'horizon et qui pouvait déjà fragiliser le mouvement.
Et face à cette répression des mobilisations écologistes, que ce soit dans les tribunaux ou par la force sur le terrain, je voudrais vous poser une question, faire peut-être un parallèle avec la mobilisation des agriculteurs, puisqu'il semble quand même que les agriculteurs bénéficient d'une tolérance plus grande, en tout cas, qu'ils puissent aboutir plus rapidement à des résultats avec des mobilisations qui parfois font appel à la force. Alors comment est-ce que vous expliquez cela et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce que finalement la désobéissance civile, c'est une méthode efficace pour obtenir des résultats et pour les mobilisations climat?
Alors bon, juste faire le parallèle entre monde agricole et monde de l'écologie ou de l'environnement, c'est sûr que le monde agricole, le monde de l'écologie n'est pas organisé de la même manière. Je parle en termes de groupe d'intérêt, en termes de représentation syndicale, et en termes de poids économique dans la société. Alors là, il faut se remettre au niveau d'un État. Les États ont en général, j'irais, une oreille plus attentive aux intérêts économiques, aux intérêts de défense catégorielle, et avec aussi un poids, on va dire, électoral dans certains espaces, notamment ruraux, qui peuvent pas être, je dirais, déniés. Ce qui peut être compliqué pour les écologistes, c'est que les écologistes sont, alors parfois à tort aussi, on pourra en discuter, mais renvoyés à l'image d'urbains, fortement éduqués, n'ayant pas non plus une force de la représentation équivalente, c'est-à-dire en termes de poids économique dans la société et en termes de lobbying, hein, on revient sur du lobbying, je dirais, assez normal, assez routinier. Et donc, il y a vraiment, comme on dit souvent, un deux poids deux mesures. Alors, deux poids deux mesures, ça veut dire tout simplement qui a du poids économique, politique, voire médiatique dans certains espaces et les relais avec les gouvernants. Donc, quels que soient les gouvernants. Après, tout dépend aussi, j'irais, de la configuration des États. Enfin, les États sont pas désincarnés. Il y a des forces politiques. Et selon la coloration politique d'un État, parfois, ben, l'un gagne un peu plus et l'autre perd un peu plus. Ce qui est arrivé aussi aux États-Unis à une époque, on le sait très bien que dans le jeu du balancier, lorsqu'il y a des démocrates au pouvoir, y compris les écologistes, ben, réussissent un peu mieux à faire avancer leur cause. Mais dès que, ben, voilà, c'est plutôt des républicains, c'est un peu plus compliqué. En France, en Grande-Bretagne, un peu partout en ce moment, il faut le dire aussi, les majorités sont plutôt centre-droit, voire même bien à droite, voire conservatrices, et sont pas tellement ouvertes à la question écologiste, sauf par, je dirais, des mesures, mais qui satisfont pas pleinement les mouvements environnementalistes et écologistes.
Alors justement, on va en venir à la question de l'efficacité de ces mobilisations et de quelle forme de mobilisation pourrait finalement permettre le plus rapidement et le plus, je dirais, de la façon la plus pérenne possible les transformations dont on parlait tout à l'heure. Mais avant, vous avez dit quelques mots notamment de l'identité, de qui sont ces personnes qui se mobilisent. Est-ce qu'on est toujours sur le cliché du bobo urbain, pour le dire rapidement? Est-ce que c'est surtout dans les villes qu'on se mobilise ou est-ce que c'est un mouvement finalement beaucoup plus large et plus complexe que cela?
Alors, on reste sur ce cliché-là, qui est quand même un cliché qui a des effets électoraux, parce que les grandes villes Ce qu'on oublie aussi, c'est que quand même, les grandes villes françaises, enfin les villes moyennes et les grandes villes françaises, ont obtenu souvent de, voilà, soit une majorité écologiste, soit par alliance avec les forces de gauche locales. Elles sont en gros aux manettes, hein, que ce soit Bordeaux, Lyon, Marseille, Rennes, Paris. Enfin, je ne vais pas citer toutes les grandes villes. Donc clairement, c'est une base, enfin, c'est une base sociale qui porte les questions écologiques et c'est vrai, c'est beaucoup plus dans les centres urbains qu'ailleurs. En revanche, ce qu'il faut regarder, et surtout peut-être après, je dirais, les événements, les soulèvements de la terre, dans les espaces ruraux, nous avons encore une forte implantation des écologistes, des environnementalistes, qui aussi peuvent, entre guillemets, perturber le jeu de la ruralité, qui avant était effectivement beaucoup plus, voilà, d'une coloration non écologiste. Donc, qu'est-ce qui se transforme en ce moment? Ce qui se transforme, c'est aussi qui se passe dans les espaces ruraux et pas qu'urbains. Il y a vraiment un enjeu aussi sur la question de l'eau, sur la question des paysages, sur la question des aménagements. Et les écologistes, je dirais, investissent de plus en plus aussi ces espaces-là. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a peut-être une tension beaucoup plus forte actuellement encore qu'il y a quelques années entre le monde agricole qui se sent questionné, qui se sent remis en cause, qui sent aussi toutes les contraintes du réchauffement climatique et le monde de l'écologiste ou les écologistes qui eux aussi investissent ces espaces là pour avoir des nouvelles manières, je dirais, de produire, de consommer et d'interroger le monde rural. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait aussi des tensions dans les espaces ruraux. Donc, pour le dire clairement, non, ils sont pas qu'urbains. Enfin, l'écologie tend aussi à se généraliser, même si, évidemment, les succès électoraux sont pas évidemment homogènes. Effectivement, ça reste un vote plutôt urbain, mais dans les espaces ruraux, il y a aussi des luttes assez importantes autour des questions d'écologie.
Alors malheureusement, on approche de la fin de cet épisode, mais pour finir, je voudrais qu'on se tourne vers le futur et qu'on parle aussi de celles et ceux qui ne se mobilisent pas, voire qui se mobilisent contre les mouvements dont on a parlé tout à l'heure. Or, pour réussir cette transition écologiste, il va bien falloir que ce mouvement écologiste prenne une plus grande ampleur, convainque une plus grande partie de la population. Alors comment est-ce qu'il peut faire demain pour s'étendre et est-ce qu'il y a des leçons dans les mobilisations passées que vous avez eu l'occasion d'analyser qui peuvent aider à faire que ce mouvement soit davantage victorieux demain?
Alors, c'est toujours un peu difficile quand même de se projeter sur, je dirais, les prochaines années, surtout que, en gros, les forces politiques se recomposent aussi en France. Il y a quand même la montée du Rassemblement national, la transformation de notre système partisan avec des forces politiques nouvelles qui apparaissent, d'autres qui ont disparu. Antérieurement, c'est vrai que l'écologie se foulait à une époque ni gauche ni droite, à un autre moment se foulait très clairement à gauche. Ce qu'on observe aussi actuellement, et ce qui peut être aussi une alerte, y compris pour les écologistes, c'est que il peut y avoir un discours sur l'écologie à peu près homogène, c'est-à-dire tout le monde en parle, avec son interprétation d'écologistes qui brouille un peu le message, donc c'est un peu compliqué pour notamment le Parti Vert de tenir, je dirais, dans ce brouillard d'écologie qui émerge un peu de partout. Donc pas vraiment de solution au sens classique, mais c'est vrai que le risque aussi, c'est lorsque les mouvements se radicalisent énormément et sont à l'écart des institutions, c'est qu'elles n'ont pas de prise justement sur les institutions et sur les transformations sociétales et les politiques publiques. Comme je disais tout à l'heure pour les agriculteurs, la force des agriculteurs, c'est qu'ils restent très présents, je dirais, de manière presque corporatiste, mais sur les questions agricoles, ils sont incontournables et donc les États, enfin l'État français est obligé de faire avec et de même parfois, on va dire, de lâcher prise sous la pression de ce monde-là. Il faudrait que les écologistes puissent aussi avoir cette prise-là, c'est-à-dire une prise aussi sur les institutions et politiques publiques pour avoir vraiment un effet transformateur. Autrement, ça restera dans la contestation, dans la radicalité et malheureusement sans transformation, je dirais, tangible, sauf à être, comme certains militants le souhaitent, hein, en coupure avec la société, sur des ZAD, sur des transformations de modèles, mais au niveau local, tout en déniant ou en reniant même les interactions avec l'État notamment ou les forces politiques autres. Or, pour gagner, y compris Martin Luther King, il a fait alliance, Martin Luther King. Gandhi aussi a fait alliance. Alliance, c'est-à-dire avec les forces politiques qui sont capables, je dirais, de faire écho à leurs demandes dans des espaces institutionnels. Donc, ça serait la, je dirais la seule, en tout cas, seule solution, peut-être pas, mais en tout cas, seule issue que je vois pour les écologistes, parce que ce qu'ils ne sont pas d'ailleurs, puisque la plupart d'entre eux ne sont pas radicalisés au point d'être en coupure de la société. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'ONG, et je pense qu'elles peuvent toujours parler aussi et à l'opinion publique, qui est quand même beaucoup plus conquise qu'il y a une vingtaine d'années, hein, et d'autant plus que les questions de réchauffement climatique transforme la vie déjà de nos concitoyens, entre les inondations, les intempéries, les sécheresses. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que l'opinion publique ne peut pas nier qu'il existe vraiment des enjeux climatiques actuellement.
Eh bien, merci beaucoup Sylvie Olitreau d'avoir été notre invitée pour cet épisode et pour cet éclairage très intéressant. Et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Etifier et Karim Baldé, ainsi qu'à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, X, Facebook, Instagram, ainsi que sur LinkedIn, YouTube. Et n'hésitez pas à nous contacter également par email, le climat en question avec un S, @ecomail.fr. À très bientôt pour de prochains épisodes.